Si nous étions au théâtre, il y aurait quelque chose de comique dans la scène des pèlerins d'Emmaüs. Comment ça, quelque chose de comique? Parce que nous sommes dans une situation de quiproquo. Les deux pèlerins prennent Jésus pour un habitant quelconque de Jérusalem et parlent de lui à la troisième personne. Ils parlent de lui à la troisième personne alors qu'il est là, devant eux. Il y a deux remarques particulièrement savoureuses dans le récit. Lorsqu'ils lui disent « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Parce que s'il y en a bien un qui sait tout ce qui s'est passé, c'est Jésus. Un peu plus tard encore, en le regardant bien en face, nos compagnons sont allés au tombeau, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il est là, debout, en face d'eux, devant leur nez, et il leur parle. Ah, c'est comique de quiproquo. Et la situation aurait vraiment quelque chose de comique, être devant Jésus, parler de lui, avec lui, sans le reconnaître, si cette situation n'enfermait pas les disciples dans la tristesse. Tant qu'ils sont prisonniers de leur aveuglement, ils demeurent rongés par la peine et peut-être le désespoir. Ils étaient tout tristes sur ce chemin. Et c'est donc bien tout l'enjeu de ce grand texte d'Emmaüs, de passer d'une humeur sombre à un cœur tout brûlant, de passer de la tristesse à la joie. Et la joie naît d'un événement très précis, la présence et la reconnaissance de Jésus ressuscité. Pas seulement sa présence, hein, parce qu'ils sont en présence de lui, mais ils ne sont pas encore dans la joie tant qu'ils ne l'ont pas reconnu, la présence et ça, la reconnaissance de Jésus ressuscité. Alors je vous propose ce matin que nous nous penchions un peu plus sur ce récit, afin de découvrir, nous aussi, comment passer de la tristesse à la joie, comment entrer dans cette joie de Pâques. Alors essayons de regarder quelle est l'origine de leur tristesse. La tristesse des pèlerins d'Emmaüs est née de leurs espoirs déçus. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit, nous espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Ils attendaient de Jésus qu'il chassât les Romains, qu'il rétablît la royauté en Israël. Et tout cela s'est effondré, il ne reste rien à leurs yeux. Mais il s'agit peut-être de poser la question un petit peu différemment. Quelle est la vraie raison de leur désespoir? Est-ce que la raison de leur désespoir, c'est que tout ne s'est pas passé comme ils l'imaginaient? Ou bien la raison de leur désespoir, c'est plutôt que leur espérance était mal placée. Parce que quand nous nous trompons d'espérance, il n'y a aucune chance que nous soyons comblés, même si les événements correspondent à notre attente. Je me permets d'utiliser une image vraiment très triviale, tirée des contes pour enfants et des dessins animés. Vous connaissez l'histoire du vilain petit canard ? Vous dit quelque chose. Le vilain, le petit canard, est très malheureux parce qu'il n'est pas comme les autres, jusqu'au moment où l'on découvre que ce n'est pas un canard, mais c'est un cygne. Alors, un cygne, l'animal, le cygne qui se fixerait comme espérance celle d'être un canard, de fait, ne sera jamais heureux. Il y a une erreur sur l'espérance qui ne lui correspond pas. Eh bien, nous sommes appelés, à travers le récit des pèlerins d'Emmaüs, de nous interroger, la tristesse de notre cœur ne vient-elle pas de ce que nous nous sommes trompés d'espérance? Si nous nous enfermons dans de fausses espérances, nous ne pourrons pas être heureux. Alors qu'est-ce que c'est que l'espérance véritable de l'homme? C'est d'être uni à la vie de Jésus. C'est d'être uni à la vie réelle de Jésus, pas celle qu'on s'imagine, la vie réelle de Jésus mort et ressuscité. Et ni la gloire, ni l'argent, ni le plaisir ne suffiraient à remplir notre vie quand notre vie est faite pour être unie à la vie de Jésus. Et du coup, Jésus va procéder, on pourrait dire, à une guérison de leur cœur, de leur intelligence, une guérison de leur espérance. Il va procéder en deux temps pour cela. Il va procéder en deux temps pour guérir les pèlerins d'Emmaüs de leur aveuglement. La première étape pour leur ouvrir les yeux consiste en ceci, leur faire dire leur espérance, à faire jaillir de leur cœur objectivement ce qu'ils avaient compris, même avec les erreurs qu'ils font, ce qu'ils attendaient de lui, ce qu'ils espéraient de lui. Il leur fait dire finalement leurs espoirs, ce qu'ils croient être leur espérance, telle qu'elle est, avec toutes les erreurs, toutes les illusions peut-être, mais il leur fait dire. Que s'est-il passé? Quoi donc? Et c'est ensuite, dans un deuxième temps, que Jésus leur fait entendre la révélation. Il leur ouvre l'intelligence aux Écritures, parce qu'il leur a d'abord fait dire leur espérance, ce qu'ils espéraient, et ensuite il a repris avec eux la révélation, ce que disaient de lui les Écritures. Il révèle ainsi qui est vraiment le Fils de l'homme, ce qu'il est venu accomplir. Ils entendent alors la révélation de Dieu qui va au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Et donc, à notre tour, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en tire, nous, de ce récit d'Emmaüs? Qu'est-ce qu'on en tire pour notre vie? À notre tour, si nous voulons entrer dans la joie de Pâques, nous devons passer par ces deux étapes. Donc, premièrement, nous interroger, qui est Jésus pour moi? C'est vraiment une question qu'on peut se poser à tous âges. Hein. C'est quand on a 12 ans, quand on a 20 ans, quand on a 90 ans, qui est Jésus pour moi? Qu'a-t-il accompli? Qu'est-ce que j'attends de lui? Qu'est-ce que je voulais qu'il fasse pour moi? Et nous devons faire jaillir de notre cœur ces réponses pour mettre au jour nos espoirs tels qu'ils sont, tels que nous les comprenons. Et ça peut demander un peu de temps. Ça peut demander un peu de temps pour savoir, oui, vraiment, qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que j'espérais? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ça peut demander de la réflexion. Et puis ensuite, ce deuxième temps, nous sommes appelés à entendre la révélation, à entendre de Dieu qui est vraiment Jésus, ce qu'il est vraiment venu accomplir. Parce que nous avons tous une idée de Dieu. Nous avons tous une idée de ce que Dieu devrait être, de ce que Jésus devrait faire. Mais cette idée ne correspond pas toujours, ne correspond peut-être même pas souvent à ce qu'il est, à ce qu'il révèle de lui-même. Mais à ce moment-là, le récit d'Emmaüs devient un peu frustrant. Je ne sais pas si vous y avez prêté attention. Parce qu'on se dit, voilà, il leur ouvrit l'intelligence aux Écritures. Alors on dit, chic, je vais regarder moi aussi. Et là, au moment peut-être le plus intéressant du récit, Saint-Luc se fait muet. Dans le récit, généralement, on en sait plus que les disciples. On sait que c'est Jésus, on sait qu'il fait semblant d'aller plus loin. Les disciples, ils n'en savent rien. Saint-Luc nous en a donné plus, nous a donné plus d'informations que n'en savaient les disciples. Et puis là, tout d'un coup, au moment où il dit « leur ouvrit les Écritures », ah ben on n'en sait pas plus. Voilà que on n'en sait pas plus. Au moment où il leur explique les Écritures, on en sait finalement moins que les disciples. Alors on peut s'interroger, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pas de la méchanceté de la part de Saint-Luc qui se dit « je vais les appâter comme ça et puis je vais les laisser sur leur faim ». Bien fait. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de malice de la part de Saint-Luc, mais il y a plus vraisemblablement le signe de quelque chose qu'on ne peut pas vivre par procuration. Quelque chose qu'on ne peut pas vivre par procuration. C'est-à-dire que ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs, il va falloir que je le vive, je ne peux pas me satisfaire de ce qu'eux ont vécu. Saint-Luc d'ailleurs nous en donne un petit indice. Il n'a pas simplement dit « Jésus expliqua les Écritures », mais il a précisé, Jésus leur expliqua les Écritures. Jésus leur expliqua les Écritures. Il expliqua les Écritures à eux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une explication qui est personnalisée. Il ne suffit pas qu'un autre à côté de moi comprenne. Il faut que moi, je comprenne. Il faut que chacun de nous, nous comprenions, notre esprit s'ouvre aux Écritures. Et c'est dans une relation, c'est dans une explication personnalisée. Et du coup, ça signifie que pour entrer dans l'intelligence des Écritures, pour découvrir ce qui est révélé de Jésus, il va falloir à la fois que je les lise, ces Écritures, que je pose aussi mes questions. Il leur expliqua. Ça veut dire que je suis appelé premièrement donc à lire l'Écriture, pas tout seul, mais à la partager avec d'autres, comme il le partage avec d'autres, et puis à poser mes questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il fait ceci plutôt que cela? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Et poser mes questions à qui? À des prêtres, à des gens versés dans les Écritures, à le poser dans son Église. Ainsi comme ceux des disciples, nos espoirs pourront être rectifiés et transformés et devenir une espérance véritable. Vous voyez, nous devons passer de l'espoir à l'espérance. Nous devons passer de l'espoir à l'espérance. Parce que nous voyons finalement le modèle de notre vie et que d'après lui, du coup, nous pouvons la bâtir. Vous voyez, notre vie est comme une statue de glaise que l'on façonne. Il faut mettre les mains dans la glaise. Je reviens sur cela. Dans notre vie, nous sommes appelés justement à la façonner à la lumière de Jésus, à ce que nous voyons de Jésus. Quand vous devez façonner une statue, imaginez-vous, vous avez à la fois votre tas de glaise, et puis vous avez aussi le modèle que vous regardez, et vous passez de l'un à l'autre. Mettre les mains dans la glaise, c'est l'effort pour dire nos espoirs tels qu'ils sont à l'heure actuelle. C'est l'effort pour formuler nos questions par rapport à la révélation de Jésus. Lever les yeux vers le modèle, c'est contempler Jésus, revenir à ce qu'il dit de lui-même. Sinon, je reste limité par mon imagination, je reste limité par mon souvenir, j'oublie la richesse de la réalité. En contemplant le modèle, le Christ ressuscité, je peux affiner, corriger mon espérance au fur et à mesure pour entrer dans la joie de Pâques, pour entrer dans l'espérance véritable. Alors les paroles du psalmiste qu'on a entendues, finalement, nous les comprenons mieux. Il dit ceci, « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. » Jésus ressuscité, toi le nouvel Adam, façonné dans l'Esprit Saint, nous t'en prions. Reste avec nous dans notre vie. Purifie et transforme nos espoirs en une espérance divine et digne de toi. Donne-nous, si nous pouvons dire, de renoncer à l'espérance du canard, non pour celle d'un cygne, mais pour celle de fils adoptif du Père. Nous voulons découvrir la grandeur de la vie humaine, de nos vies, telles que tu la révèles. Fais-nous aimer et interroger les Écritures, pour que nos vies ressemblent et communient à la tienne. C'est là qu'est notre joie. Amen.